comme vient me présenter Yves Bologny. Donc je suis à la base un jeune informaticien de l'EPFL et puis un grand collectionneur. Donc je vais en fait. Oui. Ok. Donc je vais vous présenter en fait le musée Bolo. Donc le musée Bolo qui porte en fait mon nom, puisque c'est le début de mon nom, parce que j'étais à la base de ce musée. Et puis historiquement c'est resté. C'est pas moi qui ai poussé à avoir mon nom absolument au musée, mais voilà, c'est un peu voilà, toute une histoire. Tout à l'heure, je lisais le flyer d'Aconit et je trouve amusant parce qu'en fait, on pourrait quasiment utiliser le flyer d'Aconit pour le musée Bolo. On a vraiment les mêmes buts. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ne se soit pas encore suffisamment rencontrés. Surtout que là, j'ai fait le voyage ce matin et c'est pas loin. Donc je trouve qu'on pourrait plus échanger. Voilà, ça, c'est une petite anecdote, petite note pour l'avenir. Oui, oui, je vous ai vu, tout à fait, tout à fait. Mais on pourrait, oui, plus échanger aussi, je trouve. Voilà. Donc merci pour cette invitation, ça me permet de venir à Grenoble. Ça doit être la première fois pour moi que je suis ici. Donc je vais vous faire un petit historique du musée, vous parler de comment on en est arrivé là. Et puis ça sera aussi l'occasion de voir un peu les réussites, parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même. Mais aussi les difficultés, les problèmes qu'on a rencontrés, et puis les solutions qu'on espère trouver ou qu'on a déjà trouvées. Voilà, donc déjà au niveau de l'équipe, donc d'abord l'équipe c'était moi, j'étais simple collectionneur, j'ai commencé à collectionner en 1995, je m'excuse si je parle 95, j'aurais de la peine à passer à 95, donc ça je vais parler suisse, voilà. Par contre, je ne dis pas 80 parce que je suis genevois à la base, donc c'est les Vaudois qui disent 80. Donc, je dirais 80, mais pas 95. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc, en 1995, j'ai commencé à collectionner. J'étais étudiant à l'EPFL, grand collectionneur de tout et de rien. Ça passe des timbres classiques aux bouteilles de bière vide, etc. Mais voilà, finalement, j'ai eu plus qu'une seule collection qui a pris tout mon temps libre, qui était la collection d'anciens ordinateurs. Assez rapidement, j'étais rejoint par des amis, d'autres passionnés d'histoire de l'informatique, et on a créé une association donc en 2001, l'association ABCM, qui existe toujours aujourd'hui et qui est très active autour de ma collection qui est devenue ensuite la collection du musée. Ça, je vais en parler. On a créé en 2007 une fondation parce qu'on s'est rendu compte qu'avec une association, en tout cas en Suisse, je ne sais pas exactement comment les fondations fonctionnent en France, en Suisse, une association n'a pas beaucoup de poids lorsqu'il faut commencer à faire des recherches de fonds. Et donc on avait vraiment besoin d'avoir une institution reconnue. Et donc on a créé une fondation qui, en Suisse en tout cas, est un peu similaire à une société, comme si on créait une société. Donc l'association et la fondation donc, qui travaillent main dans la main travaillent sur la restauration, la conservation des machines. L'association organise les visites guidées. Donc là, on a des visites de classe, de groupe et des petits événements. Bien sûr, on est tous bénévoles. Je dis bien sûr, c'est peut-être pas... C'est pas évident, mais voilà, je le dis, nous sommes tous bénévoles et moi je passe un temps énorme là-dessus et c'est un petit peu problématique, on va le voir plus tard. Donc au niveau des photos, je vous ai mis quelques photos d'événements. Donc on a en bas à droite, vous avez des IBM qui ont été présentés très récemment parce qu'on a eu la chance d'avoir un don exceptionnel d'IBM qui nous a offert une machine assez incroyable, qui est un super ordinateur, qui a été éteint à l'EPFL en février 2013. Et on a eu la chance, grâce à IBM, de le récupérer et qui est actuellement dans le musée. Un super ordinateur qui était encore très performant et utilisé en 2013, ce qui est assez incroyable. Donc plusieurs millions de dollars, certainement, à l'achat en 2009. Voilà, des visites guidées. On a aussi une belle collection de consoles de jeux. Donc ici, une jolie photo d'un Pong. Donc je vous disais qu'on a quelques problèmes. Ici, j'aimerais mentionner le fait qu'on a réalisé une exposition dont je vais parler plus tard. qui a un aspect professionnel. On a eu trouvé des fonds juste pour créer cette exposition. On a pu engager des scénographes qui nous ont fait quelque chose vraiment d'un aspect assez superbe. On en voit un bref aperçu en haut à droite, mais on verra plus tard. Des graphistes, enfin, il y a eu toute une équipe là derrière, ce qui fait qu'on a un aspect extérieur très professionnel, alors qu'on est toujours tous bénévoles. Et ça pose parfois un problème parce que lorsqu'on a cette vitrine, en plus le fait qu'on soit à l'EPFL, là aussi j'en reparlerai, ça pose des fois des problèmes, dans le sens où on a cet aspect extérieur très professionnel. Et donc, typiquement, lorsque maintenant on me contacte pour un don, une personne qui veut me donner quelque chose, nous donner quelque chose, je crois que je parle à la première personne, eh bien, cette personne, après 3 jours, va me renvoyer un mail en me disant bon, ça fait 3 jours que je vous ai envoyé un mail, vous n'avez toujours pas répondu, c'est quoi ça, vous n'êtes pas sérieux, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui parfois est embêtant. Au niveau un rapide aperçu de la collection, donc la collection qui était d'abord la mienne, qui ensuite j'en ai fait un don officiel à la fondation, donc c'est plus ma collection, c'est la collection de la Fondation Mémoire Informatique, cette fondation qui gère le musée Belot. Donc en 1995, ben, c'était ma collection personnelle dans un grenier. J'ai loué d'abord seul un local de 200 mètres carrés en 99, et puis j'ai eu l'occasion d'avoir un soutien de sponsoring avec la société LK à Lausanne, qui était la société où je travaillais, en fait, une société d'informatique à LK, à Lausanne, pardon. Donc de 300 mètres carrés. Ces deux locaux sont totalement pleins à ras-bord. À cela, il faut ajouter les 150 mètres carrés de l'exposition permanente à l'EPFL dont je vais parler. Le vrai musée Bolo, en fait. Donc c'est une des collections les plus importantes d'Europe, au même titre que celle d'Acolyte. Et puis récemment, on a commencé en fait une collection assez particulière qui est la collection HPC, donc High Performance Computing, donc des super ordinateurs. Donc j'ai parlé déjà de ce Blue Gene, ce don d'IBM qu'on a reçu très récemment. On a fait une conférence de presse il y a une semaine pour annoncer ce don. On a eu l'occasion aussi de sauver des 3 ordinateurs Cray qui étaient exposés, c'est un bien grand mot, exposés, ils étaient posés dans un couloir à l'EPFL. Tout d'un coup, quelqu'un à l'EPFL a dit mais ces vieux tas de ferrailles là qui sont posées là, faut dire que c'était un musée. Hein. À l'époque, il y a 20 ans, quelqu'un les a mis là en disant on va faire un musée Cray. Mais en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui changent, les gens changent aussi. Et puis, il y a des personnes maintenant qui disent bah, cet espace, on en a besoin. Et le prétexte, c'était qu'on avait besoin de l'espace pour faire des apéritifs, n'est-ce pas? Pour mettre des tables et faire des apéros. Donc, naturellement, qu'il y a une personne, heureusement, dans la fondation, on a une personne qui travaille à l'EPFL, donc qui a un vrai lien avec l'école. Et donc, il y a tout de suite eu écho de cela, qui a dit le musée Bolo veut ces machines. Et donc, vous avez une photo à gauche d'un Cray 2. Je ne sais pas combien il en reste dans le monde, mais ça doit être une dizaine ou maximum une vingtaine. Donc c'est assez incroyable d'avoir pu sauver cette machine qui est maintenant au musée. Et je dirais qu'on n'a pas encore une collection énorme de super ordinateurs, mais ce sont des machines qui sont toutes vraiment mythiques. Et donc c'est important pour nous de les conserver. Je dirais que oui, la situation actuellement est pas géniale au niveau de locaux de stockage, parce que je l'ai mis, on a 2 locaux de stockage plus l'exposition permanente à l'EPFL. Et ces locaux, voilà, au niveau du financement, au niveau du sponsoring, rien n'est vraiment fixé sur le papier, on n'a pas vraiment de contrat, et donc ça peut s'arrêter tout d'un coup. Quand on voit la taille de la collection, vous avez une photo ici du plus grand local. On a vraiment des soucis avec ça et on espère vraiment pérenniser cette situation et arriver à quelque chose de plus agréable aussi pour travailler, pas avoir toujours cette épée de Damoclès, plus avoir les locaux. Alors les expositions, donc bon, lorsque c'était une simple collection, j'avais une petite exposition dans un local de stockage, mais ça, on ne va pas trop en parler parce que ce n'était pas vraiment intéressant. Le premier musée Bolo, c'est grâce à l'intervention d'un professeur à l'EPFL qui nous a mis un espace de 150 mètres carrés à disposition. Un espace qui est ouvert, donc ça a des avantages et des inconvénients, dans le sens où l'avantage, c'est que naturellement, il n'y a pas besoin de gardien qui ouvre la porte, comme ça, donc ça, c'est assez sympa. Donc les étudiants peuvent déambuler et visiter le musée, les personnes extérieures de l'EPFL aussi. Les désavantages, ben, c'est clair que les étudiants qui passent là ne sont pas forcément très soigneux et viennent manger dans le musée. Et donc, voilà, chaque fois, ça me fait mal au cœur. Mais bon, c'est leur espace. La nouvelle exposition date de 2011. On a voulu faire quelque chose de plus grand public. On est parti sur une idée, en fait, de faire un espace un peu ludique aussi. Donc on est parti sur la thématique de la disparition de l'ordinateur. Naturellement, l'ordinateur ne disparaît pas, il est même omniprésent, il y en a de plus en plus, mais il devient de plus en plus petit, par exemple, et donc il disparaît de la vue, hein, donc il disparaît d'une manière, alors qu'il réapparaît en fait sous forme de senseurs, dans les téléphones, un peu partout. Donc on a fait une enquête policière sur ce mur que vous voyez à droite, un immense mur de 21 mètres de long qui présente en fait différents objets, ce qu'on a appelé des témoins, des preuves, des indices, et ça devient une enquête policière qui cherche à expliquer pourquoi l'ordinateur a disparu ou est en train de disparaître. Donc ça, c'est sorti du fait qu'on avait de la peine à présenter l'histoire de l'informatique à des non-geeks, hein, donc des personnes qui ne sont pas forcément les étudiants des PFL, passionnés d'informatique. La première exposition, c'était vraiment des vitrines avec des objets posés à l'intérieur. C'était vraiment une exposition de collectionneur qui veut juste présenter sa collection, bien sûr en mettant quelques informations techniques et historiques, mais ça s'arrêtait là. Alors qu'il y a eu une vraie réflexion et une vraie recherche pour faire cette deuxième exposition bien plus grand public. Voilà, donc vers une présentation plus grand public, c'est vraiment vers... dans cette direction qu'on veut aller. Les besoins financiers, juste peut-être un mot à propos de cette photo en haut à gauche. Donc ça, c'est la première exposition, donc on voit bien des vitrines, même si c'était assez joliment présenté quand même. Il y avait cet orange qui était assez flashy, et là c'était assez sympa. Mais lorsqu'on regarde le contenu, vraiment c'était des machines posées dans des vitrines avec des textes explicatifs. Alors que le mur qui est juste en dessous, il y a une vraie évolution avec un graphisme, avec une histoire à raconter bien plus que simplement une histoire technologique. Au niveau des besoins financiers, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a créé la fondation, comme je vous ai dit, on a voulu obtenir plus de fonds pour faire des choses de plus grande envergure qu'avec une simple association. Et puis on s'est lancé tout de suite dans une recherche de fonds. On s'est dit, on a une belle collection, on a une association très active, on peut y aller, on peut foncer et puis chercher des sous. Et puis le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une vitrine suffisamment sérieuse pour aller vendre notre projet. Et donc on s'est arrêté un moment, on a dit ok, on se calme, et puis on va faire quelque chose de plus beau et de plus intéressant pour le grand public. C'est ce qu'on a fait avec cette exposition « Disparition programmée ». Et donc le but de tout ça, naturellement, c'est de faire passer le message de l'intérêt et de l'avenir d'un musée de l'ordinateur. Je crois que la CONIT connaît ce problème. Sur la droite, vous avez la première page d'un livre qu'on a sorti il y a environ 2 mois, qu'on a publié il y a environ 2 mois, qui est un livre sur la base de l'exposition « Disparition programmée ». Je pourrais peut-être en reparler tout à l'heure si j'ai le temps.
Oui, à propos de temps.
Oui, d'accord, je vais vite.
Deux minutes.
2 minutes, ah, c'est clair, oui.
Quand je commence 3 à parler. Maximum, oui.
Très bien, ce sera 3. Alors, au niveau de l'EPFL, ça, je trouve, c'est très important, c'est qu'on se retrouve donc à l'EPFL. Comme je l'ai dit, ça pose des problèmes et ça amène d'autres avantages. Donc, les avantages, naturellement, c'est qu'on se trouve à l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne, très connue dans le monde et tout. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez chouette. On est dans la faculté d'informatique et communication, dans un espace qui est ouvert. Les gens peuvent venir quand ils veulent, etc. Donc, naturellement, il y a un gros avantage. Un autre inconvénient, c'est le fait que... comme on est à l'EPFL, on est toujours lié à l'EPFL. C'est-à-dire pour notre image, lorsqu'on parle musée Bolo, eh ben les gens ou les journalistes comme ça vont parler du musée Bolo de l'EPFL, alors qu'on est totalement indépendant. Et il n'y a pas un vrai soutien de l'EPFL, un petit soutien, mais pas énorme. Donc, il y a eu une bonne collaboration depuis le début. L'intérêt est un peu irrégulier, dans le sens où... il y a certains professeurs qui vont trouver absolument génial ce qu'on fait, d'autres personnes qui vont dire oui, ben bon, la vocation de l'EPFL, c'est pas de faire de la culture, c'est pas de présenter des objets dans un musée, mais d'enseigner à des étudiants. Voilà. Bon. On a eu des aides ponctuelles, mais plutôt sous forme de services, c'est-à-dire changement de l'éclairage, changement de la moquette, la peinture. C'est quand même très, très, très chouette. Et puis, ils fournissent quand même les locaux. Donc, y a vraiment, ils amènent beaucoup quand même. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la gestion du musée, l'école n'a pas envie de s'investir plus. En tout cas, pour l'instant, on est toujours en négociation. Donc, au niveau de l'image du musée, là, je vais essayer d'aller plus vite. On nous prend de plus en plus au sérieux. Lausanne Tourisme, donc l'organe du tourisme à Lausanne, s'intéresse à nous, nous montre dans les catalogues de Lausanne. Donc là, ça devient assez intéressant. Au niveau des dons, on a des choses de plus en plus intéressantes. Si vous regardez à gauche, c'est lorsqu'on a récupéré avec l'association une connection machine, donc une thinking machine. C'est une machine assez incroyable des années 80. Qui était massivement parallèle. C'est une machine qui a 8K processeurs, donc plus de 8000 processeurs de 1 bit, donc c'est très particulier, et qui était utilisée à l'Université de Genève. Il m'a fallu 8 ans pour convaincre l'Université de Genève de nous la donner. Donc là, c'est clair que sans l'exposition qui a vraiment un gage de sérieux, sans la fondation qui a été créée en 2007, on n'aurait jamais eu ce type de don. Alors, au niveau de Lausanne, on fait partie des musées lausannois, on fait partie aussi de l'association des musées suisses depuis bien quelques années. Et tout ça, ce n'est pas encore suffisant. Il faut montrer vraiment que de plus en plus qu'on est sérieux, de plus en plus qu'on présente des choses intéressantes pour le grand public, pour espérer avoir un vrai soutien de la ville de Lausanne ou du canton de Vaud. Et c'est toujours en négociation, mais pour l'instant, on a zéro soutien de la ville et du canton. Le futur. Alors, il y a eu des belles réalisations. Donc, l'exposition, c'est une très belle réalisation. Le livre, je vous en parlerai pas plus, mais par contre, je vais distribuer quelques flyers. Je mettrai à la pause là-bas. J'ai des flyers pour faire de la pub pour le livre. Donc, ça, c'est des belles réalisations. Naturellement, maintenant, il nous faut des solutions pour pérenniser tout ça, notamment les locaux de stockage, comme je l'ai dit. On va continuer dans la voie d'une présentation grand public, parce que vraiment, c'est notre credo, on a vraiment envie de présenter l'histoire de l'informatique pas seulement à des passionnés, mais aussi à n'importe qui utilise l'ordinateur. Et puis trouver des partenariats, on a commencé un partenariat sous forme du don avec IBM, on essaie de voir si on ne peut pas aller plus loin avec eux. Donc vous avez en bas, moi au centre et avec autour l'équipe IBM et du musée. Et puis voilà, donc avec ça, essayer de trouver peut-être un partenariat plus sérieux avec les PFL, la ville, le canton. Donc on est en négociation avec énormément de personnes, mais il faut maintenant que ça se concrétise. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis vous avez ici tous les liens et mon adresse email. Je vous invite aussi à aller voir sur Twitter, je suis assez actif. Vous avez tout ce qui se passe au musée. Voilà, merci.
Merci.